Les leçons de l'histoire, cela ne saurait être autre chose que la conscience aussi exacte qu'il est possible de ce qui s'est passé durant le passé.
Cette semaine, rediffusion de la marche de l'histoire consacrée au XVIIIe siècle, le 11 février 2016, nous parlions de la fabrique des Illuminati.
Tu crois tout ce que le système il veut que tu crois.
Mais tu te fous de moi? Je suis en train de te dire qu'il faut réfléchir avec ton cerveau et pas qu'avec tes yeux.
Et les vidéos qui disent que les Illuminati sont à l'origine des attentats, ils ont des preuves.
Mais ces vidéos, si elles avaient un vrai propos ou des preuves, elles te mettraient pas le doute avec une ambiance flippante.
Quiconque cherche à donner une explication du monde par les ressorts secrets du complot dispose depuis la Révolution française d'une ressource dont il peut disposer à sa guise. Il s'agit d'un petit groupe discret qui exista vraiment à la fin du XVIIIe, en milieu germanique, les Illuminés de Bavière. La longévité de cette arrière-loge qui survivrait dans le secret défie le sens commun. Les Illuminés de Bavière, devenus avec le temps les Illuminati, font l'objet de beaucoup de jeux de l'esprit qui ne méritent peut-être pas qu'on s'en fâche, ni même qu'on en dispute. Après tout, les adultes qui lisent Dan Brown se délectent de leurs hauts faits et méfaits que combat le professeur Langdon, et ce n'est pas si différent de l'intérêt qu'on prenait autrefois à la lutte de Tintin contre Rastapopoulos ou de Mortimer face à Ulrich. Les mêmes adultes tout de même s'inquiètent quand leurs ados, cherchant à se démarquer de ce qu'on leur enseigne, trouvent sur Internet quantité de pistes qui les mènent sur le chemin du complotisme. Google comptabilise 39 millions d'occurrences Illuminati contre seulement 37 pour Nicolas Sarkozy. On comprend la surprise des politiques. Le net favorise les communautés séparées où chacun retrouvant son semblable, les mêmes interprétations peuvent macérer. D'un autre côté, on peut dire qu'il est un monde de mutualisation qui agglomère très vite les interprétations séductrices. Dans la nouvelle civilisation numérique, les récits alternatifs de l'histoire ont de beaux jours devant eux.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Philippe Huneman, bonjour.
Bonjour.
Vous consacrez à ce sujet des Illuminati un long article dans le dernier numéro, celui de février, de l'excellent journal Philosophie Magazine, où vous notez 39 millions d'occurrences pour les Illuminati contre 37 millions d'occurrences pour Nicolas Sarkozy.
Oui, c'est des chiffres indicatifs, c'est juste ce que donne Google, etc. Mais ça donne une petite idée de la popularité du phénomène et qu'on peut aussi, avec d'autres indicateurs, retracer. Par exemple, quand vous faites des courbes de la variation de l'emploi des mots, vous voyez qu'à partir de 90, le mot Illuminati dans les livres numérisés par Google monte en flèche avec une pente assez aigu, et alors qu'avant, c'est un mot dont la fréquence des occurrences a stagné. Donc ça indique quelque chose. Ouais.
Les chiffres et les courbes, c'est votre domaine. Vous êtes un mathématicien de formation, devenu agrégé, docteur en philo, spécialiste dans l'histoire des sciences, spécialiste aussi de la résistance aux sciences, et vous avez beaucoup travaillé sur le monde des Lumières. Alors si vous le voulez bien, on a un peu plus de temps que Kevin Razi dans son clip gouv.fr. 3 minutes et demie pour lui, nous, il nous en reste 27. On peut prendre le loisir de remonter à la source, à l'époque des Lumières. Les Lumières, c'est un travail contre soi qu'on demande à chacun de ceux qui y participent. Il faut accepter des théories qui ont été préparées par d'autres, on dirait des experts, aujourd'hui, et accepter que le savoir soit une accumulation. Et dans le cadre des Lumières, déjà, on n'accepte pas le doute extrême. Le doute extrême n'est pas permis.
Le doute extrême n'est pas permis parce que le doute raisonnable est encadré. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions, et en particulier les questions qui sont soulevées quand vous regardez ou quand vous lisez les textes de théorie du complot ou quand vous discutez avec des gens qui sont fermement convaincus par une de ces théories, la question qui se pose est souvent celle de jusqu'à où est-il raisonnable de douter. C'est une question qui traverse beaucoup de champs, hein, parce que quand je dis doute raisonnable, évidemment, ça évoque les procès et le droit anglo-saxon où les jurés, on leur demande de voir si l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable. C'est quoi un doute raisonnable? C'est cette question-là, je pense, qui se pose quand les gens vous disent oui, vous savez. Alors typiquement les gros événements comme le 11 septembre, comme les derniers attentats, et de fait, et on en reparlera à chaque fois qu'il y a maintenant des attentats, il y a des individus qui arrivent en disant oui, mais il y a 2-3 détails qui sont bizarres et on peut en douter. Oui.
En même temps, quand vous étudiez l'époque des Lumières, Philippe Hünnemann, vous constatez que chez les hommes des Lumières eux-mêmes, y compris le grand et intouchable Voltaire, il y a l'idée qu'il y a peut-être contre la vérité un complot de la part de forces obscures.
Oui, absolument. Il y a cette idée que, si vous voulez, quand Kant essaye de résumer les Lumières, il a un opuscule qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», il dit quelque chose comme « Aie le courage de penser par toi-même ». Bon. Donc, traditionnellement, quand on enseigne les Lumières, à des étudiants, on dit voilà, c'est les valeurs de la raison et de l'autonomie qui sont, du progrès de la connaissance par la raison, qui sont mises en avant avec cette idée que quand la connaissance rationnelle avance, l'émancipation des individus va se faire. Et qu'en même temps, seuls les individus qui ont le courage de s'émanciper, c'est-à-dire de penser par eux-mêmes, peuvent faire avancer la connaissance. Et à ça s'oppose la tradition et l'autorité. Et donc ça, c'est l'idée très générale. Et à partir de là, du côté des Lumières, on a un discours émancipateur qui consiste à dire battons-nous contre ceux qui nous empêchent de penser par nous-mêmes et qui, en revanche, nous mettent dans la tête un certain nombre d'idées. En premier lieu, les idées religieuses, c'est le fameux « Écrasons l'infâme » de Voltaire, et c'est un thème qui parcourt toutes les Lumières. Seulement, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous allez avoir beaucoup d'auteurs qui vont effectivement essayer dans une visée émancipatrice, de démonter un certain nombre de complots, de conspirations, etc. Et en même temps, vous avez aussi beaucoup d'individus qui, justement, parce qu'ils ont cette position des Lumières, vont de fait se trouver persécutés, donc vont recourir à des sociétés secrètes, à des codes,
à des filtres,
etc.
Se mettre en loge, parce qu'il y a beaucoup de maçons.
Absolument.
Et en arrière-loge, qu'il y a les arrière-loges invisibles. Alors c'est le cas, par exemple, il faut qu'on en vienne aux Illuminati, des Illuminés de Bavière, c'est comme ça qu'ils ont été un peu connus au moment où ils se sont constitués. Nous sommes en 1776, auprès d'un professeur de théologie d'Ingolstadt, qui fonde une société discrète, pour ne pas dire secrète, qu'un documentaire d'Arte, consacré à sa fortune posthume, met ainsi en scène.
Au XVIIIe siècle, peu avant la Révolution française, la Bavière connaît des troubles. C'est une période de bouleversement. On cherche de nouvelles réponses aux préoccupations sociales. Adam Weishaupt salue ce premier signe du changement survenu en France. Mais il est opposé à l'usage de la force. Adam Weishaupt veut saper l'État de l'intérieur.
Eine Revolution.
Pas de révolution.
Gewalt macht nichts besser. Dem Bösen die Hände binden, regieren ohne zu beherrschen.
La violence n'arrange rien. Il faut lier les mains du mal. Gouverner sans régner. Tout est là. Nous devons entourer les puissants d'une légion d'hommes qui travaillent inlassablement à notre objectif, diriger l'humanité.
Adam Weishaupt veut mettre en place un gouvernement de l'ombre. Son ambition est de changer le monde. Rien de moins.
Le but est d'amener l'État à un plus haut degré de pureté et de perfection. Nous créerons l'État parfait.
J'insiste, mise en scène qui tient compte du portrait qui va être fait plus tard, dans les années qui suivent, des Illuminés de Bavière, dont on peut quand même noter que c'est une confrérie étudiante, d'une certaine manière, à l'ombre d'une université. Ce sera une constante, ça aussi.
Oui. Alors, c'est une confrérie étudiante. Elle est fondée par un professeur de théologie qui s'appelle Adam Weishaupt. Et elle a vécu un laps de temps très très court, puisqu'elle a vécu elle a été dissoute en 1784 et elle a été inaugurée en 1776 à Ingolstadt.
C'est court.
C'est court. Et
surtout eu égard à la longévité du mythe.
Oui.
Et ça se répand un peu dans le domaine germanique, suisse, proche par exemple. Survient la Révolution française, dont on entendait qu'il était question dans ce documentaire d'Arte, dont on mesure mal la commotion qu'elle a provoquée. Elle a aussi provoqué une émigration. Un jour, il faudra écrire un grand livre sur la vie intellectuelle des émigrés français qui se frottent au milieu allemand, au milieu néerlandais, au milieu britannique, et qui cherchent, ensemble avec ces milieux philosophiques, une explication à ce qui s'est passé. Alors ça peut être un dessein de la Providence a créé le pire pour qu'il en sorte une rédemption, ça peut être une explication aussi par des acteurs cachés. Et là, il faut faire intervenir le nom fondamental de l'abbé Baruel, ancien jésuite qui a dû quitter la compagnie puisqu'elle a été dissoute et qui fréquente le grand philosophe anglais Burke à Londres et qui...
Alors, et qui écrit donc en 1798 les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, qui donc, qui 5 volumes, hein, publiés sur 2 ans, qui sont la référence qui va lancer l'idée du complot des Illuminati. Alors, Baruel, c'est quelqu'un qui a d'abord voyagé parce que quand il était jésuite, et à la fermeture donc de la confrérie des jésuites, il a quitté la France, il est passé en Allemagne, en Slovaquie, il est revenu à Avignon, et ensuite il a été de nouveau chassé par la Révolution française en 1792, et il s'est retrouvé là donc en Angleterre. Il a vécu effectivement chez Burke, donc l'un des auteurs importants des contre-lumières anti-révolutionnaires, auteur qui soutient les notions de tradition, d'autorité, etc. Et donc Baruel écrit ce très long livre où il essaye de démonter l'influence de plusieurs couches d'auteurs de plus en plus occultes sur les événements, sur la Révolution française, c'est-à-dire à savoir les philosophes, donc Voltaire, Diderot, Rousseau, et en cela il est très fidèle à lui-même puisque sa première publication s'appelait, je crois, Les Lettres d'Helvétie, et où il critiquait déjà le mouvement des philosophes 10 ans avant la Révolution. Et ensuite les francs-maçons, qui est une autre société secrète qui elle aussi a été dissoute à la Révolution. Et enfin, il ressuscite ces Illuminati dont il dit qu'ils contrôlent les francs-maçons et qui sont ultimement les instigateurs de la Révolution française dans
Il ne peut pas y avoir d'aléatoire ni de spontané. Pourtant,
non,
c'est ça,
justement,
la Révolution française.
Justement, je pense
qu'il y a des acteurs cachés.
Il y a des acteurs cachés parce que vous savez, on mesure mal à quel point la Révolution française, c'était la perte ou la destruction assez rapide en fait de l'ordre, d'un ordre très très vieux, donc les trois états, la légitimité donc du pouvoir de droit divin, et même si la destruction de cet ordre a été préparée de longue date, et de fait les philosophes et les philosophes des Lumières, que ce soit l'Enlightenment anglais, la Aufklärung allemand ou les Lumières françaises, ont beaucoup pesé là-dessus, et Baruel a raison, comme beaucoup d'autres, de le souligner. Et donc, dans ce délitement total de l'ordre, il y a quelque chose de très rassurant de se dire « Oui, mais en fait, ça s'est pas écroulé tout seul, il y a un plan derrière. » Et c'est pas un plan divin, c'est un plan diabolique d'individus.
Alors, voilà la première source de la fable. Je reprends le mot que vous utilisez, Philippe Hulman, dans votre article de Philosophie Magazine, des Illuminati. Les ressources de l'esprit de Baruel sont extraordinaires, puisque après, plus tard, pendant la Restauration, renouvellera le thème. Il y a toujours contiguïté des comploteurs.
Absolument.
Et il mettra l'accent sur les Juifs. C'est lui un des inventeurs du judéo-maçonnisme qui va courir tout au long du XIXe siècle, produire les protocoles des sages de Sion, dont la fortune au XIXe et au début du XXe est plus importante sans doute que celle des Illuminati qui continuent à cheminer souterrainement. Et on en vient maintenant, deuxième volet, deuxième partie, à l'époque contemporaine. Vous vous souvenez peut-être de ce groupe qui a eu du succès en 2005-2007, qui était tout de rouge vêtu, les Ruggles.
Vous croyez que le protocole des sages de Sion est une invention de la police secrète tsariste ? Mais moi je sais que la solution finale est une manipulation orchestrée par les sionistes.
Vous croyez que Coluche est mort bêtement, écrasé par un camion ?
L'ordre venait du gouvernement, tout a été organisé par Matignon. Bérégovoy se suicide,
c'est Mitterrand qui décide.
Yasser Arafat est malade,
encore un coup du Mossad.
Lady Di se tue à cause d'un accident en état d'ivresse.
Je sais que la reine n'aimait pas trop la princesse.
Le 11 septembre,
c'est la NSA.
Les tours jumelles,
c'est le FBI.
Le Pentagone,
c'est la CIA.
Et Ben Laden
fait du golf à Hawaï. Le complot c'est génial, surtout quand il est mondial.
j'imagine ce que je veux. Le complot, c'est un plan dessiné par des gens, par ceux qui détiennent les cartes du jeu. Dans une cachette secrète, ils discutent de la planète, des banquiers, des militaires et des religieux. Autour d'une table ronde, il décide du destin du monde.
George Bush annonce un nouvel ordre mondial.
Nos objectifs sont clairs. Nous avons la perspective de forger pour nous-mêmes et pour les générations futures un nouvel ordre mondial.
Le complot, c'est génial, surtout quand il est mondial.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Philippe Hunemann, nous parlons des rebonds des Illuminati, on les appelle ainsi maintenant, au 20e et au 21e siècle, qui sont issus des Illuminés de Bavière. Quand le président Bush père, à l'issue de la première guerre du Golfe en 1991, guerre gagnée par une coalition largement dominée par les États-Unis, prononce le mot « nouvel ordre mondial », il imagine une extension de la démocratie à l'occidental au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, on ne réagit pas nécessairement ainsi. On se dit « les Américains ont gagné et on va chercher l'explication des événements dans les intentions. Il y en a eu, construites oui. Nécessairement, des bénéficiaires des événements.
Oui, ça, si vous voulez, c'est une constante de ce qu'on peut appeler le raisonnement conspirationniste, c'est-à-dire l'idée que, quoi qu'il arrive, il faut trouver qui bénéficie de ce qui est arrivé. Et effectivement, c'est celui ou celle ou les groupes qui en bénéficient, c'est rarement ceux qui sont les responsables ou les auteurs d'une action. Parce que tout bêtement, très souvent, les gens qui font des attentats ou soit ils sont arrêtés, soit ils sont. Donc, quand vous cherchez les victimes, quand vous cherchez les bénéficiaires, souvent c'est pas les victimes. Et vous pouvez faire prospérer tout un discours où, à partir de cette logique de chercher le bénéficiaire, vous allez dire le bénéficiaire, c'est finalement celui qui est l'auteur de l'action, mais comme c'est pas la victime, c'était un auteur caché, puisqu'il n'a pas explicité ses intentions. Et donc, vous avez ce schème de raisonnement qui va conduire à trouver par exemple, dans le 11 septembre, des auteurs qui seraient les services secrets américains, alors que c'était les États-Unis qui étaient attaqués. Alors,
ça va se répandre particulièrement dans le monde arabe, mais pas seulement. Nous-mêmes, occidentaux, nous avions expliqué ainsi la prise du pouvoir par Pinochet au Chili.
Absolument. Et de fait, la difficulté, dès qu'il est question de théorie du complot, c'est de bien voir qu'il y a des vrais complots, et il y en a énormément. Et quand, en particulier dans les 70, on a déclassifié un certain nombre de faits de l'histoire américaine, on s'est rendu compte de tout ce qu'avait fait la CIA, ce qui est une inspiration infinie pour tout un tas de films. Vous pensez à Jason Bourne, le Manchurian Candidate, ou des films comme ça. Mais de fait, ils avaient des réseaux d'écoute, des réseaux de manipulation des malades mentaux, les tests des produits de type LSD sur des gens qui n'étaient pas du tout au courant. De fait, il y a eu tout ça. Seulement, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut lire tout ce qui se passe dans le monde a priori, et tout est dans le mot a priori comme le résultat d'un complot, et c'est ce que font en général ce qu'on appelle les conspirationnistes.
Un mot, puisque je parlais des populations arabes, voilà un témoignage, c'était en 2003 sur France Culture, d'une grande voix d'Égypte.
Tout le monde réalise aujourd'hui que ceci faisait partie d'un plan américain pour contrôler le monde. Il y a eu un plan qui a été proposé à Bill Clinton en 1996 afin de permettre une politique agressive des États-Unis à l'égard du Proche-Orient, de l'Europe et de l'Asie. Et parce que Bill Clinton a hésité, on a eu l'histoire de Monica Lewinsky qui a été créée pour lui. Il y a eu une nouvelle administration et soudainement, il y a eu cet événement du 11 septembre qui a donné l'occasion à une partie de l'administration d'attaquer finalement d'abord en Afghanistan, et ensuite en Irak. Vous comptez parmi les écrivains égyptiens les plus célèbres. Ne pensez-vous pas que de croire en la théorie du complot concernant le 11 septembre n'entache pas le monde intellectuel égyptien. Pourquoi ? Quel est le problème avec la théorie du complot ? Ça a toujours marché. Que s'est-il passé en 1967 lorsque nous avons attaqué, lorsque nous avons été attaqués soudainement par les Israéliens ? Ce n'était pas un complot ? Comment le roi Faisal d'Arabie Saoudite a-t-il été tué ? Comment Sadat a-t-il été tué ? Vous le savez ? Vous ne savez pas ? Vous me faites rire.
Raphaël Kraft interrogeait Sonala Ibrahim, qui est un des écrivains les plus connus d'Égypte, dont beaucoup des romans sont traduits en français. Mais je voudrais que vous nous parliez maintenant, Philippe Hunemann, parce que vous avez pas mal travaillé sur cette question, de l'idée conspirationniste. Et là, on va retrouver les Illuminati, il ne faut pas qu'on perde le fil. Dans les populations dominées des États-Unis, aux États-Unis cette fois.
Oui, c'est très, très étrangement la fable des Illuminati a réémergé donc dans les années 80 avec dans le contexte, si vous voulez, des revendications des droits civiques par les populations noires, la seconde vague, hein, bien après Martin Luther King. Et il s'agissait en quelque sorte d'expliquer pourquoi les Noirs effectivement sont dominés, vivent une oppression quasi quotidienne. De fait, il suffit de lire les journaux ces temps-ci pour se rendre compte de ça. Et la Nation of Islam, donc le parti de Louis Farrakhan, qui était une émanation des luttes des Noirs dans les années 70, a développé un discours qui était relativement antisémite en disant les financiers juifs sont derrière le pouvoir blanc. Et il y a eu une frange de ce parti en lien avec en particulier un certain nombre de groupes de rap qui ont repris tout un imaginaire de société secrète, de franc-maçon, et en particulier l'imaginaire Illuminati. Il y a une société qui s'appelle les Five Percenters, qui est en fait une religion, Nation of Gods on Earth, donc c'est les 5%, il y a 85% des individus qui sont des pauvres gens, 10% qui les manipulent et 5% qui savent. Et c'est eux ont vraiment repris cette idée des Illuminati, et à travers le rap, qui est effectivement un langage qui est mondial, qui est écouté par en particulier une frange jeune de la population, le mythe s'est complètement construit. Et à travers ensuite les clips qui ont été diffusés sur Internet, vous avez toute cette imagerie, les yeux dans les triangles 666, la pyramide, qui sont devenus totalement familiers pour une génération donc de jeunes qui, par ailleurs, vont s'alimenter en information sur des médias plus ou moins alternatifs sur Internet.
Parce qu'il y a une grande importance du net qui, par son fonctionnement, c'est collecticiel, ça mutualise, mais en même temps, c'est des caissons séparés, ça sépare, favorise.
Oui, absolument. L'idée du net, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Donc, quiconque veut dire quelque chose ou montrer un film le fait, et n'importe qui peut regarder. Ça, c'est en principe. Après, quand vous regardez, en fait, si vous, par exemple, vous faites une carte des comptes Twitter, donc qui lit qui, et vous colorez chaque compte Twitter, par exemple, par une couleur politique, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune connexion. Tous ceux qui ont la couleur bleue vont être connectés à du bleu, quasiment jamais à du rouge, et réciproquement. Donc, la structure du net, au contraire, favorise un morcellement, et qui dit morcellement sociologiquement dit ce que les sociologues appellent polarisation des croyances. C'est-à-dire que plus je vais fréquenter des gens qui pensent comme moi, plus mes idées vont en quelque sorte aller vers l'extrême de l'idée.
Je reprends votre article de Philosophie Magazine, Philippe Hunemann. Vous dites, oui, il y a des raisons de s'inquiéter, les adultes sont très préoccupés du fonctionnement de l'information chez les adolescents qui, par définition, se démarquent de ce qu'on veut leur faire croire. Mais en même temps, les mêmes adultes, ils passent leur temps à absorber les productions des grandes machines de l'industrie culturelle qui jouent avec la fable des Illuminati. Notamment le fameux Dan Brown, Ange et démon, après Da Vinci Code, l'adaptation par le cinéma, signé Ron Howard.
Les Illuminati, ils ont disparu il y a des centaines d'années.
Ah oui ? Regardez mieux. C'est un ambigramme, la même image à l'endroit et à l'envers. On s'en sert souvent pour les symboles, comme le yin et le yang ou la croix gammée, mais là, c'est un mot. Ça fait 4 siècles que ce symbole ambigrammatique des Illuminati est considéré comme une légende. On prétend que dans les années 1500, un obscur artiste l'aurait créé en hommage à Galilée et à son goût pour la symétrie. Et qu'il ne serait pas révélé avant que les Illuminati n'amassent assez de pouvoir pour refaire surface et atteindre leur but ultime.
Nous allons abattre vos quatre piliers.
Les quatre piliers, référence aux cardinaux enlevés, Télépréférité. Les favoris à la succession du pape.
Marqués au fer rouge, puis les sacrifiés sur les autels de la science, avant de vous ensevelir sous les ruines de votre église.
Marqués au fer rouge. 1668. L'église kidnappe quatre Illuminati scientifiques et marque au fer rouge le symbole de la croix sur leur poitrine. Ça a radicalisé leur groupe d'Illuminati plus violents, déterminés à obtenir réparation. Et regardez comment ils veulent l'obtenir, en se servant de l'antimatière, la technologie pour détruire l'Église, la science qui anéantit la religion.
Bon, alors, vous êtes tenté de dire, Philippe Hunemann, c'est pas si grave que ça. D'abord, les Illuminati, est-ce qu'ils sont totalement méchants? Les bons sont jamais totalement méchants non plus. Dans les livres de Dan Brown, c'est très flottant. Le seul qui est bien, c'est le professeur, quoi. Ouais, comme ouais. Mortimer dans les aventures de Blake et Mortimer, ou même Tintin face à Rastapopoulos. Et puis, les jeunes adultes qui lisent ça, il y en a peut-être qui sont même plus vieux. Ils font seulement semblant d'y croire. Ils n'y croient pas.
Je pense que assez souvent, c'est une fausse croyance. Alors, c'est difficile de discerner une fausse croyance d'une vraie croyance. Si ce n'est qu'une vraie croyance vous engage à faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, imaginez que quelqu'un est coupable, bon, de quelque chose, a fait une chose occulte. Maintenant, imaginez que cette même personne, vous croyez que c'est un coupable et on vous dit, si vous croyez qu'il est coupable, il va aller en prison 100 ans. Est-ce que vraiment vous allez maintenir votre croyance? Imaginez que c'est juste une sorte d'intuition qu'il est coupable. Donc, s'engager vraiment dans une croyance, ça peut être un critère d'une croyance vraie. Et je pense que dans beaucoup de cas, les gens ne sont pas vraiment engagés dans une croyance. Ils jouent avec. Et de fait, le thème des conspirations et des Illuminati, c'est un thème romanesque énorme. Je pense à Jacques Rivette. C'est des films immenses sur le complot mondial. Ou sur des gens qui jouent avec l'idée d'un complot mondial. Et, si vous réfléchissez, dans l'idée de conspiration, il y a l'idée qu'il n'y a pas de hasard. Et il y a l'idée que tout arrive pour quelque chose. Et maintenant, si vous pensez à ce que c'est qu'une fiction, vous savez, Tchekhov disait cette chose géniale, si je mets un fusil, si je l'accroche au premier acte, au cinquième acte, il doit tirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une fiction, dans une structure narrative, les choses, les faits, les paroles, même le décor sont pas là par hasard, ils ont une fonction. Et donc quand on se plonge dans une fiction, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est à ça qu'on s'attend. Et donc effectivement, tout ce qui est conspiration, et alors plus une conspiration est gigantesque et mondiale, plus ça peut permettre de développer ou de déployer des facultés narratives et puis le plaisir de la narration.
Alors, vous questionnez la fiction, mais il y a une vraie question philosophique qui sous-tend votre propos dans Philosophie Magazine, Philippe Hunemann. C'est la question sur les conséquences de la croyance, sur l'engagement, je reprends vos mots de tout à l'heure, dans la croyance.
Oui, c'est si vous voulez, comment vous définissez qu'est-ce que c'est que croire en quelque chose? Est-ce que c'est faire toutes les actions qui découlent de cette croyance? Et effectivement, dans ces cas-là, si vous croyez vraiment à un certain nombre de choses qui vont avec les Illuminati, si vous croyez, par exemple, que les Illuminati dans le ciel diffusent un certain nombre de produits qui nous chamboulent le cerveau, ça s'appelle la théorie des chemtrails, bah, faut plus sortir de chez soi, faut aller dans un abri.
C'est-à-dire que de proche en proche, pour être conséquent, si on est partisan de la thèse des Illuminati, faudrait s'interroger sur tout ce qu'on fait.
Exactement.
Dans le domaine qu'on croit encore vrai. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, aller encore chez le médecin?
Faudrait plus aller chez le médecin, parce qu'évidemment, dans ces théories, la plupart des médicaments sont trafiqués pour vous manipuler. Alors, le cas type, c'est les vaccins. Et je pense que personne n'est prêt à vraiment payer ce prix-là. On a des gens qui sont prêts à payer un prix intermédiaire, et c'est des croyances jamais entières. Voilà. Et ça, c'est une vraie question philosophique. C'est quoi une croyance entière?
Il faudrait peut-être renoncer à utiliser son ordinateur, parce qu'au fond,
on est directement sur la NSA. Oui, oui, en plus,
vous êtes venu avec votre ordinateur, Philippe Hunemann. Merci à vous. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec Julien Chabassu à la technique, Ilinka Negulesco, Franck Olivard, Clara Garzon, Frédéric Martin, pour la préparation.